Cette est une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez,
on y va.
Stella Morinas, bonjour.
Bonjour Yves.
Avec Racontez-nous votre set, je vous invite à un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auditeurs de Radio Divergence. Stella, vous vous présentez comme une mominette dionysienne, fière de ses origines et de ses choix, dont celui de s'ancrer ici, à Sète, entre deux eaux. Mais, alors Stella, la môme sétoise a-t-elle fini son parcours ?
Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je crois que j'ai toujours besoin de savoir que je peux partir de quelque part pour m'y sentir bien. Mais, très honnêtement, à 7, je m'y sens vraiment bien. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai posé mes bagages là et j'étais déjà venue, repartie, ponctuellement, etc. Mais il y a quelque chose qui m'attache profondément à 7. Et je pense que c'est déjà ce qui m'attachait profondément à ma banlieue. C'est l'amour du lieu, mais l'amour des gens aussi qui y sont. Et ça, vraiment, ça a été fantastique pour moi à 7 de faire tout de suite des rencontres incroyables.
Mais alors, qu'est-ce que les Sétois ont de particulier, celle-là ?
Bah, justement, pas forcément quelque chose de particulier, mais quelque chose de familier pour moi. Quelque chose qui me rappelle les contacts que j'avais dans ma banlieue, les contacts militants, les contacts simples, les contacts directs, parfois un petit peu rugueux aussi. Mais voilà, j'ai éventuellement de quoi répondre quand c'est trop rugueux. Mais j'aime ça, j'aime effectivement rencontrer des gens qui sont vrais, avec qui je peux vraiment être. Et c'est vrai que, pour ma part, en tout cas, j'ai croisé vraiment de magnifiques personnes sur Sète et des personnes très authentiques. Et ça m'a tout de suite conquise.
Parce que quand même, entre le 93, moi je refuse de dire le 9-3 parce que voilà, entre le 93, qui est quand même la banlieue parisienne, qui a une mauvaise réputation, mais on peut revenir là-dessus après, ça m'intéresserait que vous parliez un peu de ça. Mais, et Sète, le sud, il y a un monde.
Alors, il y a un monde, mais curieusement, on est pas mal de dionysiens et dionysiennes à Sète.
Ah
il y en a dans ma rue, quelques-uns.
Ah bon,
il y en a plusieurs, des célèbres aussi, que peut-être vous connaissez. Mais effectivement, il y a des liens parce que ce sont deux villes, en tout cas telles que je les vis moi, deux villes militantes. Et quant à la banlieue, en tout cas, alors moi je dirais le 9-3 parce que c'est le langage des jeunes de banlieue, ça a été le mien. Donc ça c'est important aussi pour moi de s'approprier le langage, y compris celui qui nous stigmatise parfois. Et on pourra peut-être...
On va voir si vous êtes bien acclimaté à cette... Vous savez ce que c'est qu'une mominette ?
Alors non, je ne sais pas.
Vous savez pas ?
Non. Alors ?
Une mominette, c'est un verre qui permet de se servir une petite dose de pastis.
D'accord, ma foi.
On dit une mominette, ça veut dire, vous savez, comme quand on dit avec une bière, on a le demi et puis on a un petit verre de bière, d'ailleurs, le nom...
Le boc.
Non, c'est plus petit que ça, le nom m'échappe. Et une mominette, c'est vraiment un tout petit verre comme ça de pastis, voilà, c'est ça.
Bon.
Alors, je me suis dit, quand j'ai une mominette dionysienne, c'était très étrange. Alors, revenons un petit peu. Donc, vous avez découvert des personnes qui vous ont marqué à Sète.
Oui, qui m'ont marqué. Puis juste quand même un mot, puisqu'on a évoqué la banlieue rapidement. Moi, je suis très attachée aussi à cette banlieue. Ma famille y est encore. J'y retourne de temps en temps quand je peux le faire. Et c'est vrai que la banlieue que je connais, elle est très, très loin de l'image qu'on en a. Quand je vois effectivement tous les jeunes de ma famille, où on a une famille maintenant comme tous les jeunes de banlieue, de toutes les couleurs, et ça c'est fantastique. Et moi je vois ces jeunes-là, mais qui sont une force extraordinaire de créativité, de travail, etc. Donc c'est assez fantastique par rapport à ça. Et surtout, c'est des jeunes qui sont complètement dans leur époque, complètement dans la réflexion de leur époque. Donc on est très loin des schémas qu'on accole parfois à la banlieue. Et alors les gens Votre question, c'était quel genre, quelle personne fantastique j'ai rencontré
sur
cette...
Oui, mais attendez, on va rester sur la banlieue un petit peu, parce que il se trouve que dans mon activité professionnelle, j'ai beaucoup côtoyé les banlieues, pas simplement à Paris, mais dans tout ce qu'on appelait les quartiers sensibles. Moi, j'ai toujours dit, ben oui, c'est ceux qui sont particulièrement sensibles, parce que les gens qui y vivent sont des gens qui sont solidaires et sensibles. Alors, les quartiers sensibles... Bon, donc le 9-3, c'est intéressant parce que ce que vous dites, j'ai cru comprendre que votre famille est d'origine étrangère ou pas. J'ai bien compris ou pas?
Morena, ça vient d'où? Alors c'est curieusement, c'est pas le nom le plus marqué par mes origines étrangères, même si lointainement ça vient d'Espagne, mais effectivement mon grand-père paternel était du Mont Ventoux. Donc voilà, c'est très français.
Oui.
Mais effectivement, du côté de ma mère, mon arrière-grand-père était bavarois et ma grand-mère italienne.
Ah la vache.
Donc oui, voilà, excusez-moi. C'est des gros mélanges.
Bon, alors revenons sur ce quartier. Je veux dire, quand vous y retournez aujourd'hui, vous emmenez quoi de cet avec vous ?
La joie de vivre, la joie de militer, l'envie de militer et la gratitude par rapport aux gens qui m'ont appris. Cette joie de vivre là où on est et cette envie justement de marquer notre territoire aussi par ça. Parce que dans ma banlieue et notamment dans ma cité, puisque je vivais dans une cité, il y avait des gens, alors c'était la grande époque de l'éducation populaire, il y avait notamment des enseignants et des enseignantes qui s'occupaient des jeunes du quartier. Et notamment, je pense à une dame fantastique qui est encore là-bas, que je revois quand j'y retourne, et qui animait des clubs de théâtre, etc. Et qui nous a appris des choses extraordinaires, qui nous a permis ensuite d'être nous-mêmes animateurs, animatrices, etc.
Et elle était de quelle organisation ?
Elle était Éducation nationale, c'était simplement une enseignante, mais qui, dans son quotidien, dans sa cité, œuvrait pour le bien-être de ces jeunes et de ces mominets, justement, de banlieue.
D'accord. Voilà. Non, je posais la question parce que j'ai moi-même côtoyé des centres d'entraînement, une taux d'éducation active, la Ligue de l'enseignement, tout un tas d'organisations qui, dans les années, disons, autour des années 70, étaient très, très vivaces. Mais alors, comment l'idée de militer vous est venue ?
Ben, je crois de là. Vraiment de là, parce que, enfin, moi je suis persuadée, il y a eu des tas de documentaires là-dessus, qu'effectivement on commence à être touché par ça, justement par l'émotion en fait. Et moi j'ai été très émue quand j'ai vu des rassemblements ouvriers, mais même par des choses curieuses. Moi je viens d'une famille, on va dire, de tradition catholique, voilà, hein, de tradition lointaine, mais quand même. Donc j'ai fait mon catéchisme, j'ai été baptisée, etc. Et les prêtres qui étaient là étaient des prêtres ouvriers. Ils étaient à l'usine avec nos pères et nos mères.
Ah, ouais.
Donc ça changeait tout, effectivement. Et quand je voyais ces gens fonctionner, ou après, quand je voyais les gens du PC vendre l'UMA dans les rues, quand je voyais les femmes et les hommes de la famille discuter politique, eh ben oui, ça donnait envie, à des échelles diverses, que ce soit d'une manière plus institutionnelle ou simplement comme ça au quotidien, ça donnait envie d'inscrire quelque chose dans le territoire.
Et vous avez eu un jour un flash, une décision en disant, où est-ce que ça s'est fait en incubant doucement ?
Oh, je pense en incubant doucement. Justement, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le parcours.
D'accord.
Ça peut se faire simplement parce que... ma mère, qui nous a élevés finalement seule avec ma sœur, a tenu des choses importantes dans sa vie quotidienne. Elle a tenu déjà à divorcer, à être une femme autonome, ce qui n'était pas forcément complètement...
C'était à cette époque, c'était courageux.
Tout à fait. Et puis, avec toutes les difficultés que ça veut dire, de retrouver un travail, mais aussi dans la fameuse cité, de poser sa patte en disant non, mais là, il faut que les femmes prennent des responsabilités également, etc. Donc, c'est des toutes petites choses comme ça. Et puis, petit à petit, bah, effectivement, moi, à chaque fois que je suis allée de ville en ville, j'ai rencontré des gens, des militants, des militantes, et je me suis dit, voilà, ça, c'est intéressant. Cette réflexion-là, elle est intéressante. Et petit à petit, c'est des mondes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent sur des réflexions féministes, des réflexions politiques, LGBT, etc. Et oui, ça fait, ça pose quelque chose.
D'accord. Alors, si vous voulez bien, Stéphane, je vais vous passer un peu à la à la Moulinette et vous poser quelques questions. Je vais vous demander, autant que faire se peut, de ne pas réfléchir avant de répondre. Donc, dites-moi, un petit jeu. Si cet était un parfum, ça serait quoi ?
Ah, un parfum. Celui de la mer, alors c'est assez vague et indéfinissable,
mais
celui de la mer. Celui de la mer que je sens.
Lequel ? Parce que la mer, elle a plusieurs parfums.
C'est vrai, mais c'est ça qui est intéressant.
Il y a l'iode, il y a la marée, il y a...
Mais est-ce que tous les parfums ne sont pas multiples quand on les met ? Si vous portez un parfum, si j'en porte un, il ne sera pas le même.
Bon, allez,
et la mer, c'est un peu pareil.
Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser le. Et si, alors, c'est un peu vrai, mais ça va comme ça. Je vais redoubler un peu. Et si Saint était un coquillage ?
Un coquillage. Oh ! Ce serait, alors là, c'est mon ventre qui parle. Ce serait une huître. Mmh. Parce que c'est fantastique.
D'accord. Et si c'était une plante ?
Une plante. Alors, je ne suis pas très forte en botanique, donc je serais incapable de vous dire le nom. Mais il y a une plante que je trouve magnifique. J'ai des tas de photos. C'est ces fleurs que l'on trouve là au bord de mer, sur la rocaille. Je crois qu'on m'a dit un jour, mais vraiment, je suis nulle à ça, que c'était des griffes de sorcière, un truc comme ça.
Ah, c'est mignon,
voilà,
en plus.
Voilà. Ça va parfaitement.
On va dire que c'est ça, d'accord ? Et une musique ou une chanson aussi ?
Alors ça, c'est compliqué aussi. C'est compliqué parce que, alors, j'affectionne Brassens, donc vraiment parce que c'est aussi quelqu'un qui m'a appris à lire, à dire, etc., quand j'étais Mominette, justement. Mais j'aime beaucoup Les Passantes et dans sa version, la version qu'on a entendue dans le film la plus récemment. Donc ça, c'était fantastique. Mais sinon, parce qu'il y a quand même... c'est quand même une ville très marquée par les hommes, cette. Et je dirais que ce serait plutôt, je ne sais pas si vous connaissez ça, une chanson des Feux Moustés qui s'appelle « On parle de parité ».
On parle de parité. Est-ce que Bruno a ça à nous offrir ? On va le laisser chercher.
D'accord.
Et c'est une chanson... dites-moi un peu pourquoi vous choisissez ça. Vous avez commencé.
Justement, parce qu'effectivement, moi, j'adore cette ville. J'adore cette ville. Et il y a aussi, justement, c'est pour ça que je milite, parce qu'il y a aussi des aspects de cette ville qui me piquent un peu, quand même.
Oui, quand même. Qui
piquent un peu.
je suis d'accord pour dire que c'est merveilleux, mais...
voilà.
C'est bon.
Spécialement dédicacé aux routières, aux cadrières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscuitières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux coristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité.
Ça va. Oui, alors je comprends un peu. Donc, si moi j'essaye de faire que les invités rencontrent Seth, hein. Mais alors tout le monde en général me donne de bonnes choses sur Seth, mais quand même des fois je leur dis, mais enfin quand même. Alors, dites-moi un peu, où est-ce que ça vous pique un peu ?
Où est-ce que ça me pique un peu ? À cet endroit-là, par exemple, quand je vois les joutes uniquement avec des jouteurs, ou depuis peu, quelques jouteuses, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits, par exemple. Parce que c'est une tradition, la joute, mais il y a des tas de petites filles qui rêvent de faire des joutes.
Mais alors, c'est marrant, parce que l'autre jour, j'ai reçu une dame de 7. Alors, il se trouve qu'il y a eu un ennui avec l'ordinateur et que son émission a disparu dans les entrailles. Et justement, elle me disait qu'elle voulait essayer de faire que, pour les prochaines joutes, il y ait un truc, une joute pour les femmes.
Oui.
Donc, vous voyez, vous n'êtes pas toute seule à penser ça.
Non, mais on a même des amies jouteuses. Il y a même eu un premier tournoi où elles ont été un peu reconnues, mais c'est encore à la marge. Et puis surtout, les sociétés de joutes ne sont pas complètement ouvertes, etc.
Ouais.
Donc, voilà.
Et quand c'est un peu macho.
C'est clairement, quand on voit le...
Plus qu'un peu, alors.
Oui, voilà. quand on voit le film de propagande qui avait été fait, je crois, par la mairie, il y a deux ans autour de cette ma capitale. C'était, quand on regarde les images, c'est clairement des images occupées par la gente masculine. Alors, pourquoi pas ? Mais oui, non, voilà, oui. Ce ne sont pas les seuls habitants de Sète.
D'accord.
Et les femmes de Sète sont des fortes personnalités. Et moi, je trouve qu'on devrait les voir davantage.
Oui, alors comment on peut leur donner... Pas, j'aime pas le terme donner la parole, mais parce que en fait, la parole ne se donne pas, elle se prend.
Voilà.
Alors, comment les femmes de Sète, vous pouvez, je crois savoir... contribuer à ce qu'elles prennent la parole.
Ah bah déjà, alors effectivement, on l'apprend, on est nombreuses à l'apprendre d'ores et déjà dans les associations, etc. Mais je crois que même dans toutes les associations, même les associations qui sont des associations amies, il faut absolument que les femmes revendiquent le fait de devenir présidente d'association, parce que quand on regarde l'ensemble des associations, je ne suis pas sûre que là, le ratio soit en la faveur des femmes. Donc effectivement, c'est important, politiquement, bien sûr, c'est important. Et puis, alors la prise de parole, effectivement, le fait d'avoir la parole partout, c'est aussi, alors bien sûr on doit prendre la parole, mais c'est aussi quel espace on offre pour la prendre. Et ça, c'est un vrai projet pour la ville, c'est-à-dire que comment on peut faire que cette ville offre de vrais espaces pour que chacun et chacune puisse parler, et quand chacun et chacune pourra parler, peut-être que là les femmes aussi pourront parler davantage.
Ça, alors là, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Moi, je suis un nouvel arrivant à Sète. Je suis un peu stupéfait par le manque d'espace et je ne connais malheureusement, alors je vais dire pourquoi malheureusement, qu'un seul espace, c'est tous les samedis matins à 11h, à côté de ce malheureuse place qu'on est en train de défigurer définitivement. Et là, il y a 150, 160 personnes avec un micro, on n'entend rien, on ne comprend rien, pas grand-chose. Et les gens sont là et je me disais en voyant ça, mais bon sang, il faudrait qu'on fasse un espace qui soit une agora dans lequel tous les gens viendraient s'assembler et discuter... de l'ordre du jour du conseil municipal, par exemple, qu'on rigole un peu ou qu'on dise aux élus « Non, mais attendez, vous êtes en train de déconner complètement. » Et ça, c'est un espace qui serait intéressant. Mais je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est marrant parce que moi, je suis un homme, hein, pas plus ou pas moins machiste que les hommes. J'ai un certain âge, donc il faut que je m'habitue. Mais... j'ai toujours été fasciné par le fait que la résistance, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont le courage de se dresser et de dire « stop, ça suffit » et qui sont souvent bien plus courageuses que les hommes pour faire ça. Et ça, c'est une chose qu'il faut leur reconnaître. Alors, dites-moi, si on continue, à part ça, un peu de machisme, la parole des femmes, qu'est-ce qu'il y a encore à Sète qui vous embête ?
Bah, là, déjà, oserais-je dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'embête nettement moins, c'est qu'effectivement, la justice est passée à Sète. Donc ça, c'est quand même un élément essentiel. On commence à être à la fin d'un système, en tout cas, je l'espère. La justice a été rendue par rapport au maire de Sète. Il a eu la bonne idée de démissionner ensuite. Et je pense qu'effectivement, là, on va devoir vraiment continuer la lutte pour continuer à défaire ce système et tourner cette fameuse nouvelle page pour Sète.
Comme l'a écrit quelqu'un, parce que j'ai un peu regardé, c'est pas trois mandats. C'est un règne. Et le fait que cette réaction se fasse prouve, alors c'est lui le maire, mais ça prouve surtout une chose importante, c'est que l'organisation régulière du conseil municipal et d'une municipalité n'est pas démocratique. Le maire est un roi, il a tous les pouvoirs, il révoque, il nomme, il décide, il signe, etc. Il peut même, comme c'était le cas à Sète, se débrouiller pour qu'on n'ait même pas accès aux séances du conseil municipal alors que c'est obligatoire. Et en plus, même si on y a accès, on ne peut pas parler. Et je pense que le recul des habitants citoyens devant les élections, je veux dire, M. Comen, peu importe, mais il n'est pas le seul, a été élu avec une fraction de la population. Il représente une minorité de cette. Il faudrait que les futurs élus comprennent que l'enjeu C'est pas le programme, c'est la démocratie bien municipale.
Sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui s'est créé, hein, qui s'appelle Nouvelle Page pour 7, effectivement, où on essaie d'être dans cette dynamique-là. Et c'est une gageure à chaque fois, de vraiment essayer de prendre les décisions tout ensemble, etc. Mais c'est aussi pour ça que le terreau associatif, c'est à la fois un fantastique terreau d'apprentissage pour cette démocratie, quand on le mène de manière intelligente et éthique, etc., où chacun, chacune peut prendre sa place. Et c'est un beau terreau, effectivement, pour aller faire quelque chose de nouveau au niveau de la démocratie municipale. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite.
Oui, c'est un peu ce que certains appellent le municipalisme, c'est-à-dire, alors ça fait couler beaucoup d'encre, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Je crois comprendre, alors je parle pas de cette là, mais que les partis politiques sont plus ou moins d'accord avec ça, parce que les dirigeants politiciens des partis politiques, une fois qu'ils sont élus, hein, comme disait le maire qui vient de démissionner, le parking était dans mon programme, j'applique mon programme. Mais il répétait en cela ce que dit notre très cher président de la République, qui croit que quand il a dit ça allait suivre des faits. Mais c'est pareil, c'était dans mon programme, donc je le fais. En oubliant qu'ils sont élus par une minorité.
Oui, et puis en oubliant qu'il y a des tas d'autres choses qui étaient écrites dans le programme et qui étaient éventuellement des choses intéressantes et par contre qui ne sont pas faites, mais que ce soit au niveau national ou municipal.
Vous connaissez le commentaire de ce cher Charles Pasqua, alors je dis cher parce que paix à ses cendres, qui a été un politicien d'une roublardise abominable, il disait les promesses n'intéressent que ceux qui les écoutent, pas ceux qui les font, voilà. Bon, ben ça fait tout un programme encore, alors vous n'êtes pas prêts de pas repartir de cette, parce que tout à l'heure vous m'avez dit je ne sais pas.
J'ai besoin d'avoir cette pensée-là.
C'est vrai.
Voilà, mais en même temps, je n'ai pas envie de partir de 7, d'autant qu'on a créé plein de choses. On a évoqué ce mouvement, on a créé aussi, là, plus récemment, une association LGBT avec un premier festival.
Attendez, j'ai pas compris, j'ai entendu parler de ça. Le festival a eu lieu ou
non,
il
va avoir lieu en juin. C'est le premier festival LGBT de 7.
Ah, mais c'est merveilleux, alors.
C'est merveilleux, bien sûr.
Bon, j'espère que vous allez avoir beaucoup de monde qui vont pouvoir discuter, échanger, surtout échanger, je veux dire, on traverse une période sensible sur plein d'endroits dont un certain nombre d'institutions font les frais, entre autres à l'heure actuelle l'Église catholique, l'enseignement privé catholique. On fait d'ailleurs semblant d'oublier, indépendamment de ce qui se passe dans la quantité d'argent que l'État dépense, alors qu'il y a quand même, que je sache, un enseignement public qui n'a pas besoin d'être aidé. Voyez. Bon, et donc c'est faire. J'espère que. Enfin, je ne sais pas si je serai encore là. C'est à quel moment?
C'est au mois de juin.
Ah oui,
entre le 10 et le 14 juin.
Ah, mais
juste avant la Pride.
Je serai encore à 7. Donc j'essaierai. Et j'espère qu'il y aura. Je suppose, vous avez pensé, qu'il y aura des endroits où on peut discuter, échanger.
Absolument.
Voilà.
Il y aura de nombreux débats. Puis le but, c'est vraiment aussi d'entrer dans l'échange et dans la complexité.
Il y a un problème, et j'espère, je veux dire, on ne peut pas régler ce problème aujourd'hui avec des oukases. Il faut qu'on échange, que chacun respecte chacun, et ne dise pas « dégagez, il n'y a que moi qui… » Voilà. Bon, en tout cas, je suis content qu'on puisse annoncer ça. Stella, je vais vous poser une question. Dites-moi, je pose cette question à tous mes invités. Quand vous êtes triste, vous allez où à 7?
Au bout du môle. C'est souvent. J'aime bien cet endroit, mais que je sois triste ou joyeuse d'ailleurs. J'aime bien cet endroit parce que j'ai l'impression d'être dans un cocon, en fait. Dans cette petite plage-là, qui n'en est pas forcément une, au bout du môle.
La plagette qu'il y a avant le Hamar Café, là.
Oui.
D'accord.
Ouais. J'aime beaucoup cet endroit.
Ah oui.
Parce que, oui, on y voit les vagues, on y voit le vent, on y voit des sétois, on y voit des gens avec leurs chiens, on y voit des gens vivre.
Ah oui.
Et ça, moi, j'aime bien ces lieux où on voit des gens vivre.
Ah oui. Ouais. Moi, c'est un lieu, je suis assez d'accord. Alors, vous y allez quand vous êtes triste?
Aussi. Mais
quand vous êtes gay?
Les deux. Parce qu'en
les deux.
vraiment, pour moi, la mer, c'est quelque chose... J'ai beaucoup, dans mon parcours, couru après cette mer-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc, quand je suis joyeuse, j'ai envie de m'y baigner. Et on essaie à quelques-unes de s'y baigner toute l'année. Et quand je suis triste, eh ben, ça m'apporte aussi beaucoup. Parce que je peux regarder, ramasser des trucs. Donc voilà, c'est toujours apaisant.
Moi, j'ai vu au football parfois. Alors, la Méditerranée, depuis que je suis à Sète, n'a jamais été très, très, très méchante. Ça peut lui arriver. Mais j'ai vu quand même une chose qui est... Une mer calme, c'est beau, mais une mer, comme disait Raymond DeVos, démontée, c'est quand même magnifique. En plus, au bout là, il y a toute une plage de gros rochers, et quand les vagues se fracassent là-dessus, ça grimpe, c'est vraiment... Alors j'allais vous dire, donc que vous soyez bien ou pas bien, c'est la mer qui vous intéresse, oui. D'accord,
oui. C'est aussi ce pourquoi je suis venue ici, à Sète. C'est un élément essentiel, la mer.
Oui.
Quand on sort de la gare,
oui,
et qu'on voit les bateaux, déjà, ça donne cette idée de la mer, les canaux, etc. Et là, quand on arrive à la mer, c'est extraordinaire.
Non, c'est vrai. Alors, on dit toujours l'île singulière, ça fait un peu slogan. Mais après tout, pourquoi pas? Il faut quand même... Moi, j'ai été personnellement aussi... Je connaissais pas Sète, hein. Enfin j'avais traversé Sète, mais vraiment voilà. Et un jour je suis venu au mois de juin, j'ai fait le trajet en voiture de la gare au Lazaret, et j'ai vu les terrasses de café, j'ai vu le Grand Canal, j'ai dit mais c'est là Yves que tu vas venir mourir. En fait tu vas choisir. Mais j'aimerais revenir avant, puisqu'on va s'arrêter dans 2 minutes, hein, parce que vous dites une chose que je n'oublierai pas, qui me fascine beaucoup. Vous êtes un peu comme un oiseau sur la branche, en fait. C'est pas sûr que vous allez partir, mais vous voulez avoir l'assurance que c'est possible.
Oui. Oui.
Ça, c'est une très, très belle définition de la liberté. Je vous le dis pour moi. C'est d'avoir de se dire, je suis là parce que je le décide, mais... Si je veux m'envoler, je peux. Et ça, c'est merveilleux.
Ah, le choix, c'est essentiel, d'avoir cette dimension du choix.
Stella, je vous remercie pour cet entretien.
Merci.
Et merci pour cette belle parole de fin. Et je vous souhaite de rester longtemps sur la branche A7. À bientôt.
À bientôt, merci.
Sète est une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre Sète.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.